Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous écoutez
du Trizac.
Cube Radio.
Antoine Robitaille et Caroline Saint-Hilaire sont avec nous pour parler de politique. Bonjour à vous deux.
Hey, bonjour.
Ah ben, on vient de conclure avec le colonel à la retraite, Monsieur Drapeau, sur le responsable de la vaccination, Denis Fortin, qui est accusé d'inconduite sexuelle. Encore une fois, hein?
Ouais, effectivement, Benoît, c'est intéressant ta conversation avec Monsieur Drapeau, qui s'y connaît, on va se le dire.
Ouais.
Mais là, effectivement, c'est vendredi. On le sait, le bon vieux coup en politique, habituellement, on annonce ce genre d'affaires-là un vendredi soir où tout le monde est déjà parti et rentré dans ses terres. Mais c'est pas tout à fait clair l'histoire autour de Danny Fortin, qui c'est celui qui est responsable là, de la vaccination au Canada. On était tous très fiers de le voir arriver, gérer. Cette opération-là. On apprend que, bon, il y aurait des allégations, une histoire qui daterait, selon CTV, Benoît, de 1989. Mm-hmm. Bon, M. Fortin était à l'école. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors, j'avance à tâtons dans le sens où on est quand même dans des allégations, mais en même temps, on l'a retiré de ses fonctions durant l'enquête militaire. Mais là, il me semble que si c'est une affaire anodine, disons ça comme ça, il me semble que ce serait dans l'intérêt de tout le monde d'éclairer, de répondre aux questions le plus rapidement possible pour l'armée, pour l'opération de vaccination, pour M. Fortin aussi, parce que là, il ne faudrait pas non plus que, tu sais, que, et là, je fais attention, là, parce que toute accusation ou allégation est importante et on veut que les victimes portent plainte. Ça, c'est la prémisse de base, on convient de ça. Mais il ne faut pas non plus que 32 ans plus tard, pourquoi tout d'un coup ça arrive? Bien que c'est possible qu'après 32 ans, des victimes aient envie de sortir et parler, on salue ça aussi, je le répète, mais est-ce que c'est parce que M. Fortin est arrivé dans le paysage médiatique? Est-ce que ça a réveillé quelque chose chez la victime? Mais il me semble que le gouvernement de Justin Trudeau, les forces armées ont tout intérêt à répondre, à faire preuve de transparence dans tout ça, là, pour le bien de tout le monde.
Mais là, M. Drapeau disait que ça faisait 2 mois qu'on le savait, là.
Ben c'est ça. Ça fait 2 mois qu'on le sait. Nous, on l'apprend comme ça vendredi soir à dernière minute. Il faudrait que l'enquête se fasse rapidement. Et j'ai apprécié que M. Drapeau rappelle une des recommandations de la juge Deschamps, c'était justement d'avoir ce tribunal-là indépendant, de trouver des façons de faire des enquêtes rapidement. Là, je veux dire, il y a trop de cas qui s'accumulent pour que les forces armées prennent pas conscience que ça peut pas prendre des mois et des mois. Là, il faut qu'on règle ça. C'est toute l'opération. Et là, on n'a même pas encore annoncé qui serait en tête de l'opération. En tout cas, c'est plutôt inconfortable. Ouais. Et là, ben, vous comprenez bien que les conservateurs sautent là-dessus. Mmh. Mais, tu sais, bon, est-ce que c'est la responsabilité du ministre de la Défense de dire, écoute, faut répondre à ça rapidement.
Ben oui.
C'est quand, quoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puis on fait quoi avec l'opération de vaccination?
Mmh. C'est la chaise musicale.
On n'a pas beaucoup d'infos.
Ouais, on joue à la chaise musicale, on les remplace un après l'autre, mais
ben oui.
Ils perdent
finalement,
tout.
On serait peut-être mieux de faire delete all puis on recommence à zéro.
C'est ça. Puis tout le monde en parle, c'est quoi le...
Ben écoute, en fait, je veux pas revenir sur le fond du projet de loi C10, mais j'ai un inconfort. Hier, tout le monde en parle, a invité sur son plateau, bon, c'est la grande messe du dimanche à Radio-Canada, on a invité Stephen Guilbeault, qui est le ministre du patrimoine, pour parler du projet de loi C10, justement, le projet de loi qui veut, dans le fond, amener la plateforme, toutes les plateformes numérique sous juridiction du CRTC. Et on a invité François Blanchet, qui est chef du Bloc. On a invité Jack Meaty, mais j'ai su comment ça s'est passé exactement, parce que vendredi, tout le monde en parle, annonçait que c'était seulement Stephen Guilbeault et Yves-François Blanchet. Et là, les conservateurs étaient pas contents. On dit, ben écoutez, comment ça se fait que les conservateurs, qui sont ceux qui sont contre ce projet de loi-là, qui expriment des bémols, ne sont pas invités. Et là, finalement, tout le monde en parle, s'est ajusté, a invité M. O'Toole, mais M. O'Toole devait venir en présence, en physiquement présent, Ouais. En présentiel, voilà, j'essayais d'éviter le mot.
Ouais,
et il pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre comme Alain Raïez. Et puis Alain Raïez est vraiment fâché parce que c'est lui qui travaille le dossier.
Ben oui.
Et c'est mal connaître tous les coulisses du politique. Puis Antoine va sûrement corroborer. Habituellement, un chef de parti ne répond pas à des ministres. C'est chef à chef, surtout quand t'aspires à devenir premier ministre. Bien sûr, pour Yves-François Blanchette, qui est chef du parti comme ça, c'est une belle visibilité. Tu dis pas non. Même pour Jack Metin, qui est allé finalement. Mais tu sais, pourquoi on permet à Justin Trudeau de faire l'entrevue de à distance, mais on n'a pas permis la même chose à Erin O'Toole? Et hier, dans le fond, écoute, c'était une opération contre les conservateurs que je comprends, là, t'as le droit de faire de la politique puis d'exprimer ton opinion, mais il me semble que moi, j'aurais le droit d'entendre aussi la perspective des conservateurs qui hier a été écartée. Me semble que c'est faire de la petite politique, tout le monde en parle, c'est un show de variété. Si on veut nous donner de l'information, ben qu'on donne toute la palette de l'information, pas juste celle qui fait notre affaire.
Il aurait dû changer pour être là. Comment ça qu'ils sont ramassés comme ça sur le carreau? Je veux dire, exclus. J'écoute. Moi, j'en revenais pas. J'écoutais ça hier, là, puis je me disais, j'imagine, là, dans les officines des conservateurs, ils devaient capoter. Ils se faisaient ramasser par tout le monde.
Ouais, ouais.
En tout cas. Ouais, mais
comment ça se fait qu'un show, tu sais, comment ça se fait là que une émission de télévision à Radio-Canada en plus là n'a pas permis, par exemple, à Alain Raïez d'y aller? Il me semble que c'est le vis-à-vis direct de Stephen Guilbeault.
Ouais, mais autour, il aurait pu y aller aussi, là, c'est pas parce que
non, mais Raïez ça aurait pu faire
pourquoi?
La job. Là.
Ben oui, pourquoi on empêche
à faire ton chef au Québec, t'envoies ton chef, peu importe avec qui tu vas parler.
La règle là, c'est on invite le Parti conservateur. Envoyez-nous ce qui vous voulez. Si vous nous envoyez un cabochon, ben il va être représentatif de votre parti. Si vous nous envoyez un prix Nobel, ben ça va être pareil. Mais là, tu choisis pas l'invité dans le parti, là.
Puis chef de parti répond pas à un ministre. Je suis désolée, c'est la base là. Est-ce que vous allez voir Justin? Est-ce que vous allez voir une Dominique Anglade répondre à un député du gouvernement? Ben non, elle va répondre à François Legault.
Un député, un ministre, oui.
Un ministre, pardon.
Ben, en tout cas, moi, j'aurais très bien... Je comprends pas leur histoire.
Mais au-delà de ça, je veux dire, pourquoi ils n'ont pas accepté qu'ils soient... Ben pourquoi il n'a pas accepté qu'il soit par vidéo, là, ça se fait pour tout le monde? Pourquoi?
Pourquoi pas en présentiel? Il aurait pu être là.
Ben, parce que ça dépend,
je sais pas,
c'est
moi,
à Toronto.
Pourquoi il peut pas, mais c'est pas ça le principe, là, en tout cas. Mais bon.
Là, faut se calmer à grosse tête aussi. Là. C'est pas parce que tout le monde en parle, t'appelles, que faut t'arrives en courant puis en rampant. Tu sais, tu y vas si tu peux, tu y vas si tu as le goût, puis tu y vas si tu es disponible. Puis si tu peux pas être là pour un premier ministre,
si tu sais que ça va se transformer en bien cuit,
ben
je veux dire, tu t'arranges
ça.
Pour être là.
Ben, ça dépend
puis,
aussi.
Ça s'enlignait pour ça, là, je dis.
Oui, mais Antoine, comment se fait-il qu'une émission de variété impose aux politiques qui est là? Je veux dire, c'est pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas rond. Il me semble que la moindre des choses, si tu veux être une émission d'information, pas juste de variété, ben, tu veux avoir toutes les opinions, pas juste celles que toi tu imposes. Il me semble que c'est pas que je défends les conservateurs. Ils ont manqué une belle occasion.
Non, les communications des conservateurs et tout crache, là, tu sais. Ils comprennent rien au com. Le Parti conservateur comprend zéro au com. Là, on le voit. Faut dire que le Parti conservateur a coupé des fonds à Radio-Canada. Justin Trudeau en a donné. Ça doit aider. La crise à Québec... La crise à Québec solidaire.
Ben oui. Tu sais que c'est la semaine en circonscription pour les élus de l'Assemblée nationale, mais ça a fini juste avant le grand congé. Ben, il faut pas dire qu'ils sont en congé, hein. Ils vont se fâcher.
Non.
Mais pour Québec solidaire, ça a été une fin de semaine autre en émotion et en motion. La pognez-vous?
Bon,
parce qu'il y a eu une motion de blâme à l'égard du CAD, le collectif antiracisme et décolonisation. Et finalement, ça a été adopté à presque 80%. Pour l'une de ses représentantes, ben en fait, la porte-parole, une des co-porte-paroles, Ève Thorez, c'est là un signe qu'à l'aube de ses 15 ans d'existence, Québec solidaire a rejoint le club des vieux partis. Il ne fait plus de la politique autrement. Ben oui, toi. Faudrait que dans un parti, tu acceptes qu'il y ait des gens qui tirent dans la chaloupe systématiquement, comme l'écrivait Robert Dutrisac dans Le Devoir ce matin. Et ces gens-là étaient très critiques à l'égard de l'aile parlementaire. Hein. C'est pas juste qu'ils ont été favorables aux propos d'Attaran. Ça, c'est clair que c'est au cœur du blâme qu'ils ont reçu. Mais aussi, ils n'arrêtent pas de critiquer très sévèrement sur les réseaux sociaux l'aile parlementaire. Par exemple, il y a une membre du groupe qui a dit que Gabriel Nadeau du Dubois faisait pas sa job pour contester le couvre-feu, qui est d'une manière, c'est-à-dire de gauche. Il y aurait moyen à gauche de contester le couvre-feu. On a reproché à Émilie Lessentérien, la députée de l'Abitibi, d'avoir tenu des propos sinophobes parce qu'elle a dit qu'il y avait des prédateurs chinois qui voulaient s'emparer de nos terres. Oui, c'est tardant.
C'est très drôle. Puis la pandémie, c'est à droite ou à gauche. C'est pas selon des données scientifiques, c'est une question politique.
C'est quasiment ça.
Faut-tu être cabochon pour dire des affaires de même?
Puis, on a appris en fin de semaine qu'il y avait un changement de garde à la chefferie parlementaire. Je tiens à dire qu'il y a une chef parlementaire actuellement à Québec solidaire jusqu'au mois de septembre, c'est Manon Massé. Or, elle a annoncé qu'elle ne voulait plus de ce rôle-là et que c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui va prendre la direction. C'est l'autre co-porte-parole, comme on sait. Elle demeure, mais elle demeure co-porte-parole, puis un homme blanc va devenir chef parlementaire.
C'est quand même pas... raciste et colonisateur, un homme blanc à la tête de Québec solidaire.
Finalement, c'est à gerber, hein?
Ben, c'est écœurant. Les vieux partis avaient raison. Ça prend un bon père de famille blanc pour mener un parti politique, sinon ça marche pas.
Donc, Manon Massé,
Caroline?
Se dit...
Oui.
OK, continue.
Je tourne ma langue.
Est fatiguée, elle est tannée d'entendre François Legault lui répondre tout le temps les mêmes affaires, elle est tannée de débattre pour rien avec lui, puis elle veut retourner pas mal sur le terrain. Mais elle dit qu'elle va quand même être candidate en 2022, donc c'est pas, elle accroche pas ses patins. Là. Rebondissement ce matin, Benoît et Caroline, le CAD a publié sur sa page Facebook une vidéo tiré du huis clos, donc c'est un huis clos qui a fui, où la co-porte-parole du CAD, Alicia Tukiapik, qui a fait une sortie contre Manon Massé, a dit, et ça c'était en direct, là, ça a été filmé, je veux dire, pendant le huis clos, elle dit qu'elle a été candidate dans Ongava en 2018, arrivée quatrième. Après, elle dit que on l'a pas soutenue, on s'est pas occupé d'elle. Pourtant, elle a été représentante de la Commission nationale autochtone qui a été créée en 2019 au sein du parti, qui est vraiment une commission assez puissante au parti. Mais elle a perdu, ça c'est ce qu'on m'a expliqué, elle aurait perdu ce rôle de porte-parole-là. Et écoute, ce rôle de porte-parole-là, ça l'amenait à être sur la commission de coordination nationale. Donc, une sorte de club qui gère le parti d'une certaine façon. Et donc, elle a perdu ça aussi. Mais là, elle reproche à Manon Massé de l'avoir laissé tomber. Elle dit qu'elle s'est fait s'est jamais fait traiter comme ça, ignorée. C'est épouvantable. Alors, il y a une autre crise, là. Il va falloir que Manon Massé réponde. Et ça tombe bien parce que notre collègue Geneviève Peterson, là, en entrevue, tout à l'heure.
C'est bon. Mais pas obligé de répondre non plus, hein. Moi, on était tous d'accord à dire que Manon Massé, c'est une femme de compassion, d'empathie, qui a travaillé sur le terrain, à aider, à faire reculer la misère chez le monde. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Manon Massé, là. T'sais, s'en prendre à elle, là, ça devient un peu dégueulasse.
Ben, on verra ce qu'elle va répondre. Mais ce que j'ai compris des quelques téléphones que j'ai faits, c'est que Manon Massé serait même pas au courant de toutes ces guerres intestinales, comme j'ai déjà entendu.
Ah ouais, ça donne mal au ventre.
Oui, c'est ça, c'est un de mes péronismes préférés. Donc, ces guerres intestines, elles seraient pas au courant de tout le détail, hein. Ça se passe souvent assez loin, mais là, ça arrive dans tous les partis. Te souviens-tu du PQ de Pauline Marois, toi, autour de 2011, 2015?
Ben, parle-nous du PQ d'aujourd'hui, là.
Ils ont proposé leur propre plan d'action axé sur un contrôle accru de l'immigration pour sauver le français au Québec, pour moderniser la loi 101. Ils se défendre d'être des extrémistes, c'est l'étiquette qu'a voulu leur accoler François Legault. Eux autres, ils veulent que ça soit vraiment un plan chiffré. Hein? Ils s'opposent au plan d'action de la CAQ pour ça, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de cible chiffrée claire. Ils disent c'est un peu comme le plan de la CAQ pour la réduction des gaz à effet de serre. C'est le fun, t'as pas de chiffres, t'as pas d'objectifs. Alors, ils voudraient qu'il y ait vraiment des chiffres en termes de pourcentage à atteindre, notamment qu'on revienne à 80% de la population québécoise d'ici 10 ans qui parle français, qui vit en français, tout ça. Et actuellement, ça serait autour de 78, donc ils veulent gagner un 4%. Donc, de quelle manière? Écoute, c'est beaucoup par l'immigration. Baisser les seuils d'immigration, pour eux, c'est très important. Puis, évidemment, il y aurait comme un ministère aussi, une espèce de commissaire, pardon, à la politique linguistique qui, lui, évaluerait annuellement si on fait des progrès ou si on régresse.
Bon, et finalement, ce troisième lien... Ça s'en vient.
On va avoir une annonce cet après-midi vers 15h. C'est le tunnel Québec-Lévis là, qui est intégré au réseau de transport structurant de la capitale nationale. Et c'est le gouvernement Legault là, qui va faire cette annonce. On va savoir enfin combien ça va coûter, quel tracé précis. Là, on sait déjà que le tunnel, il partirait de Lévis puis il sortirait près d'Exposité. Ceux qui connaissent bien Québec vont comprendre que c'est très, très loin. Ça va être un très, très, très long tunnel. Moi, je prévois que ça va être autour, juste pour le tunnel, de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, rappelons que c'est plus que le REM, qui est à 6,4, si je ne m'abuse, et plus que la Romaine. Est-ce qu'on veut payer ça pour des voitures? Là, c'est sûr qu'on veut verdir l'affaire, dire qu'il va y avoir bien des autobus là-dedans et que les gens vont pouvoir transiter, mais écoute, j'ai hâte de voir ça. C'est une promesse électorale.
Mais ça, c'est la carte. C'est pas grave. C'est les générations futures qui vont payer. On s'en sacre.
On va continuer.
On continue à s'endetter.
Ça marche. Là, quand tu as parlé de carte de crédit, tout de suite, Justin Trudeau m'est venu à l'esprit.
Ah oui, je pense que oui.